Ézéchiel 3, à partir du verset 16. Au bout de 7 jours, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre tu avertis le coupable qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi tu seras déchargé de ta responsabilité. De même, si un homme juste se détourne de sa conduite juste pour faire le mal, parce que j'aurais placé quelque occasion de chute devant lui, et s'il meurt pour n'avoir pas été averti, certes, c'est à cause de sa faute qu'il mourra, et on ne tiendra pas compte de sa conduite juste du passé. Mais je te demanderai compte de sa mort. Mais si tu as averti l'homme juste pour qu'il ne commette pas de faute, et qu'effectivement il n'en commette pas, alors il vivra pour avoir entendu tes avertissements, et toi tu seras déchargé de toute responsabilité. » Et puis je voudrais lire un passage un peu parallèle dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, quelques beaux versets. « En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, et donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau et déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ces deux textes, il y a quelque chose en commun, hein? Notre responsabilité d'être, dans l'Ancien Testament, il est parlé de sentinelle, et puis dans le Nouveau, d'ambassadeur. Dans les deux cas, il y a des choses en commun. Hein? Appelé à représenter quelqu'un et appelé à avertir aussi. Je n'aimais pas retourner dans ce texte d'Ézéchiel parce que je l'ai entendu mal utilisé à une époque de ma vie, puis je l'avais mis de côté. Parce qu'on utilisait ce texte pour que les gens qui ne veulent pas évangéliser se sentent coupables. Vous voyez, si vous ne le faites pas, ils vont en enfer, mais ce sera votre faute. Ce n'est pas de ça que ça parle, et ce n'est en tout cas pas le cœur de Dieu du tout. Mais il reste un principe qui est vrai derrière, c'est que nous avons des responsabilités. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas, avoir des responsabilités, être responsable d'eux. Parce que c'est proche de la notion d'avoir un engagement. Et donc, on n'aime pas ça. Je pense que vous avez reçu le mail que Marc a fait suivre avec cette petite publicité pour ces petits clips vidéo faits par l'association Donnaissance. Et puis, donc c'est une réflexion très simple sur l'éducation. Et on m'a demandé d'écrire une petite partie pour compléter les vidéos. Et puis dans les semaines à venir, donc vous ne les avez pas encore, mais moi je les ai à l'avance, il y en a un sur les limites. Et puis la dame là qui est éducatrice et coach en famille ou je ne sais pas trop quoi, hein, elle dit, voilà, tous les spécialistes de l'éducation sont d'accord aujourd'hui pour dire qu'un enfant pour grandir a besoin de limites. Mais on n'aime pas les poser, on ne sait pas toujours où les poser, on ne sait pas comment les poser. Et du coup, je méditais sur ce sujet en même temps que j'avais ces textes-là aussi, puis les choses se mettaient un petit peu ensemble. Et je réfléchissais, pourquoi les enfants n'aiment pas les limites, pourquoi nous, on n'aime pas les poser, mais pourquoi ils en ont besoin, et pourquoi nous en avons besoin, hein? En tant qu'être humain, on vit tout le temps, on est fait de paradoxes, hein, tout le temps. Et puis, on n'aime pas les limites parce que, par définition, les limites nous renvoient à notre humanité. Les limites me rappellent que je suis limité. J'ai une fin. Un jour, je vais mourir sur cette terre. Hein. J'ai un début et une fin. J'aime pas ça. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je suis limité dans le temps, dans l'espace aussi. Je ne suis pas tout puissant. Il y a des choses que j'aimerais faire et je ne peux pas les faire. Hein. Et puis on pourrait continuer comme ça. Après, il y a les limites que la loi m'impose. Il y a les limites que ma conscience m'impose. Il y a les limites que mon manque de finances m'impose, etc., etc., quoi. La société, le regard des autres. Donc des limites, il y en a de partout. Et puis, ben, souvent, on les, enfin, c'est pas très agréable, on ne les aime pas. Et en même temps, on les aime de notre côté parce qu'elles nous protègent. Elles nous permettent de nous sentir en sécurité. Hein. La brebis qui est dans un pâturage et qui voit la barrière et qui l'empêche d'aller brouter de l'autre côté, elle n'aime pas la barrière. Mais quand elle pense que la barrière empêche que le loup vienne dans son pâturage, elle aime la barrière. C'est compliqué, hein? Il faudrait une barrière qui me permette d'aller brouter de l'autre côté, mais qui empêche les loups de venir de mon côté. Aïe. Et c'est là où il y a tout le paradoxe de. Ouais, on a du mal à accepter que dans les choses que Dieu a faites, il y a plusieurs aspects à une même chose. Et la liberté et la responsabilité, c'est deux aspects d'une seule réalité. C'est comme une pièce de monnaie, il y a pile, il y a face. Hein. Et puis, ben, si pour une raison quelconque, vous aimez le dessin d'un côté, mais vous n'aimez pas le dessin de l'autre, c'est la même pièce. Alors, vous pouvez regarder qu'un côté. Mais le côté que vous ne regardez pas, il est toujours là derrière. Hein. Et puis, s'il n'y avait qu'une face, ça ne serait plus une vraie pièce, ou qu'un côté pile, peu importe lequel des deux. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que bah, c'est vrai que la façon de penser ambiante, justement, hein, à cause de ces questions que je soulève là, et du paradoxe que ça amène chez nous, on a essayé de développer une philosophie, sans Dieu forcément, où on pourrait couper les pièces en deux et prendre que le côté qui nous intéresse. Et on voit dans quel état ça a mis la planète dans laquelle on vit. Hein. J'aimerais que mes enfants respirent de l'air propre, que tout aille bien, etc. Mais je veux quand même me déplacer en voiture et je veux manger du poisson qui n'est pas pêché, machin truc. Et puis, on est toujours dans ces choses-là. Hein. J'aimerais une bonne qualité de vie, mais je ne veux pas en payer le prix. J'aimerais bien que les gens qui meurent de faim dans un autre pays aient à manger, mais je ne voudrais pas que ça influe sur mon niveau de vie à moi. Et puis, en termes plus courants, on aimerait le beurre et l'argent du beurre, la crémière si possible, et puis tout le reste avec. Hein. Et on doit apprendre à faire face à ça, hein, même si notre mode de vie maintenant rend ça encore plus compliqué. Parce que ce n'est pas si vieux que ça, mais il y a eu une époque où si on voulait voir un film, on devait se taper les pubs, parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix, quoi. Mais maintenant, qui regarde encore les pubs, sauf s'il en a envie dans un film? Non, pourquoi? Parce qu'on zappe. Hein. D'ailleurs, qui regarde un film du début à la fin? Je parle à la télé. D'ailleurs, qui regarde encore la télé? Parce que je peux tellement voir comme je veux, quand je veux, sur ma tablette là, ou sur mon écran de télé, mais à l'heure que je veux, quand je veux, en bout comme je veux, sans ça, avec ça, avec le début de ça, avec la fin de ça, avec la musique d'autre chose derrière. Tout est fait, et ça, c'est pas un mal, je trouve que c'est bien, hein, pour qu'on puisse choisir ce qu'on veut, comment, quand on veut. Puis c'est super. Il y a de très très bonnes choses qui sortent de là. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'absorber tout, hein, si en tout cas on a gardé un peu de réflexion et de sens critique. Mais quand on transpose ce mode de vie à notre vie avec Dieu, ça pose un problème. Parce que Dieu me sauve, ça ne me pose pas de problème. Mais quand on lit le texte qu'on a lu, les deux textes qu'on a lus dans la Bible, autant celui sur la sentinelle, que celui qui dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Hein. Alors Christ est mort pour tous, ça c'est super, ça me plaît. Et donc ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place. Ça ne me plaît pas. Qu'il soit mort pour moi, ça me plaît, mais que moi je devais vivre pour lui, non. Parce que quand même, je suis libre. Oui, mais alors si je suis libre, je refuse qu'il soit mort pour moi. Ah non, ça je le veux. Oui, mais alors je dois vivre pour lui. Mais non, ça je veux pas. Hein? C'est d'autant plus compliqué que Dieu a mis ces choses devant nous, mais dans les règles du jeu, il nous a donné la possibilité de choisir. C'est assez incroyable, mais on peut vivre, on vit, en tout cas je vis, tout le temps de façon inconséquente. Mais ce n'est pas la meilleure façon de vivre, puis ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, mais c'est possible. On vit tous en contradiction avec nos supposées convictions, tout le temps. Enfin, à plus ou moins, pas dans tous les domaines, heureusement, et pas à des grands niveaux, mais on est sans arrêt en train de faire des compromis, comme je le disais, sur des choses comme l'écologie, comme le niveau de vie, comme le partage, comme l'accueil. Ouais, on fait des compromis, mais on fait ça beaucoup avec Dieu. Que Dieu vienne à mon secours quand j'en ai besoin, ben, évidemment, j'ai jamais vu quelqu'un en phase terminale d'une maladie ou quand ses enfants vont très mal ou qui se disent ouais, pff, Dieu, s'il ne m'aide pas, c'est pas grave. Non, là, c'est Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Mais quand ça ne va pas trop mal, écoute, Seigneur, j'étais déjà consacré 2 heures dimanche matin, une fois par mois, c'est beaucoup quand même. Hein? Et Dieu dit c'est pas de ça qu'on parle. C'est juste que j'aimerais que ta vie soit cohérente. Parce qu'en fait, la paix dans nos cœurs, le fait que nous soyons un, que nous ne vivions pas entre deux chaises, c'est la meilleure façon de vivre. Les raisons pour lesquelles on a tellement de maladies qui nous viennent avec le stress, avec toutes ces choses-là, avec plein de choses psychosomatiques. C'est justement parce qu'on vit avec ces contradictions et puis on ne sait pas les gérer, alors on essaie juste de ne pas en tenir compte. Mais on n'est pas cohérent. Oui, Dieu existe, oui, la Bible est vraie, mais non, mais oui, mais non. Alors quand ça m'arrange, oui, c'est vrai, mais quand ça ne m'arrange pas, non. Et on est pris entre tout ça. On doit juste comprendre que ben, on est ce qu'on est, on vit avec nos contradictions, c'est pas dramatique, mais on a besoin d'accepter que Dieu est celui qui nous éduque et qui nous a mis des limites d'une certaine façon. Heureusement, imaginez si l'être humain était tout puissant. Quand on voit limité comme nous sommes les dégâts que nous pouvons faire, alors si nous étions tout puissants, sans limite, bon, c'est simple, hein, on serait déjà en enfer. Si chaque être humain pouvait faire tout ce qu'il a envie de faire, ça serait l'enfer. Hein. Et peut-être l'enfer, c'est ça, en fait. Hein. Des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, tout le temps. Quelle horreur. Alors, je dis ça, et j'aime pas non plus les limites. Hein. J'aimerais que ce soit comme ça pour tous les autres, sauf pour moi. Parce que moi, je suis raisonnable, je l'utiliserai bien. Bien sûr. Et puis, ben, c'est ce que chaque individu sur la planète dit. Et je crois que c'est quelque chose d'important. On a besoin de toujours accepter de faire face à cette réalité. Hein, souvent, je dis que la chose la plus difficile, et je crois que c'est la chose la plus difficile, c'est de faire face au vide dans nos vies sans utiliser d'artifice pour le remplir et demander à Dieu de le remplir. Continue de penser que c'est la chose la plus difficile à faire. Mais la deuxième chose plus difficile, c'est de faire face à nos incohérences et de les regarder en face sans s'enfuir et de demander à Dieu de nous aider à les mettre en cohérence, parce qu'on ne peut pas le faire hein, tout seul. Pas rêver, hein. Si c'était faisable, on l'aurait fait depuis longtemps. Hein. Paul n'y est pas arrivé, les grands champions ne sont pas arrivés, on ne va pas y arriver nous non plus. Moïse non plus, hein. Pensez, Moïse qui donne la loi, hein, la loi dit tu ne prendras pas de femme étrangère et il prend une femme étrangère. Ça c'est Moïse. Hein. Paul qui a écrit 1 Corinthiens 13, il n'est pas capable de faire équipe avec Barnabas et puis il se sépare parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Etc. Donc nous on est comme eux, on n'est ni pire ni meilleur. Hein. Mais par contre, on ne doit pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que sinon, on accepte une zone d'hypocrisie dans nos vies qui crée un malaise et qui va nous détruire petit à petit. Ça va faire soit de nous des gens qui laissons tomber en disant de toute façon, être un bon chrétien, c'est pas possible, donc puisque je peux pas être un bon, je préfère pas être du tout. Puis, enfin, en tout cas, je ne sais rien, je crois que Dieu existe, mais je fais ma vie sans lui. Ou alors, on va faire semblant qu'on en est un, Et puis on devient un bon religieux hypocrite qui critique ceux qui... Dans les deux cas, on a perdu, quoi. Mais vous allez me dire, c'est quoi la solution, puisqu'il n'y a pas d'autre issue. Si, justement, de faire face à ces choses-là, en les amenant à Dieu. Parce que quand je réfléchissais à ce sujet, puis c'était pas très réjouissant comme sujet, quoi. Je commençais à être un peu écrasé. Ça me mène où, cette réflexion ? Et puis, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait un domaine sans limite. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas trouvé. Mais j'en ai trouvé un. C'est l'amour de Dieu. Il est sans limite. Dans Éphésiens, il nous est dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous ceux qui sont ses enfants les dimensions de son amour, les dimensions infinies. Donc c'est un autre paradoxe. Parce que nous, quand on dit dimension, c'est qu'on peut mesurer. Mais les dimensions infinies de son amour, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Si je vous lis ce texte, Éphésiens 3, il est très beau. À partir du verset 17, ça c'est dans la traduction du Semeur, mais c'est pareil. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, non pardon, ça c'est second comme traduction, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Puis je vous le lis dans une autre traduction. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Et vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Et en fait, la solution à nos paradoxes, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. Je ne peux pas enfermer Dieu dans une définition, parce que chaque fois j'arrive au bout de mon mètre pour mesurer, il y en a encore, il est infini. Mais par contre, je peux le connaître et vivre dans son amour. Et c'est le seul endroit où les paradoxes se résolvent. Parce que la question se pose en d'autres termes. Quand on est enraciné et qu'on vit dans l'amour de Dieu, la question, c'est plus qui a tort ou qui a raison. C'est Dieu qui m'aime. Est-ce que c'est lui qui est mieux que moi ou c'est l'autre? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Ça ne se pose pas. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je n'ai pas fait assez? Ça ne se pose pas. Donc, le seul endroit où on va pouvoir échapper aux tensions de nos paradoxes et de « oui, je veux, mais je ne veux pas, je sais », cet homme qui dit à Jésus « guéris mon enfant, ouais, ben, si tu as la foi, il sera guéri. Oui, je crois, mais aide mon incrédulité. » Voilà, autre paradoxe, et toujours c'est nous. Mais lorsque, par la foi, on vit enraciné dans l'amour de Christ, alors on s'aperçoit que non, je ne peux pas toucher ni en largeur, ni en longueur, ni en profondeur. Il y a un endroit où je suis à l'aise et où je n'ai plus besoin de calculer comment ça fonctionne. Juste, je suis là. J'y suis. Et puis, il faudrait que j'y reste. Alors, en général, on ne vit pas là en permanence, dans notre expérience. Mais justement, les difficultés de la vie d'un côté, le découragement vis-à-vis de soi-même, quand on voit qu'on ne progresse pas, on n'y arrive pas. Toutes ces choses-là devraient être juste des signes d'alerte qui nous rappellent « tu n'es pas au bon endroit ». Et puis, il n'y a pas de solution là où tu es. Essayer de t'améliorer, tu n'y arriveras pas, mais renoncer à t'améliorer, ça ne va pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, j'ai besoin d'aller faire un séjour dans l'amour de Dieu. Là où ces calculs ne se posent plus, ces questions ne se posent plus. Il me prend, il m'accepte, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Mais vivre pour lui, ce n'est pas faire des choses désagréables parce qu'il voudrait le faire pour m'embêter, pour me faire payer quelque chose qu'il a dit qui était gratuit. Sinon, il serait encore plus tordu que nous. Si c'était un moyen de nous manipuler, une dette qui fasse que maintenant on lui doit à vie quelque chose... Mais alors, ce n'est plus de l'amour, c'est juste du commerce. C'est ce qui se fait quand il y a des grosses crises économiques, les gens très riches rachètent toutes les dettes, et puis les pauvres disent « Oh, il est gentil, il a racheté ma dette !» Oui, bien sûr, il est très gentil, Maintenant, vous lui appartenez, en tout cas au niveau des possessions. Ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas de l'amour. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a effacé notre dette, elle n'existe plus. Mais la seule chose, c'est que même sans dette, hors de lui, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas être satisfait. Je ne peux pas éviter les paradoxes qui font que dans le temps, ça crée des choses qui ne vont pas en moi. Hein. Alors, il est mort pour tous, tous ceux qui le veulent, mais afin que tous ceux qui vivent, vivent en lui. Et on va découvrir. Et le royaume de Dieu, c'est quoi ? Ben, c'est justement tous les endroits où on ne fonctionne plus en essayant de résoudre les paradoxes, mais simplement en étant motivé par l'amour de Dieu. Et puis, selon ce principe-là, hein, le principe de la grâce, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous explique que le péché a régné par la loi, et maintenant, dans le nouveau royaume, c'est la grâce qui règne. Parce que c'est le principe qui fait que ça peut être différent. Alors, ce matin, on va prendre ce moment de mémorial. Hein. Je ne vais pas faire le boulot de celui qui va le faire. Mais juste, j'aimerais que, puisqu'on a ce moment-là, en plus il y a un très beau chant avec de magnifiques paroles derrière, sur l'amour de Dieu, qu'on utilise ce moment qui n'est pas magique pour penser à ça et demander à Dieu de nous aider à fuir nos efforts pour résoudre nos incompatibilités intérieures et juste essayer de nous réfugier en lui sans rien faire de plus que d'être en lui. Hein. Rappelez-vous cette image, la petite bouteille qui est au fond de l'océan, dans une fosse marine peut-être à des milliers de mètres, quelques kilomètres sous l'eau, et puis qui dit « Je suis dans l'océan et l'océan est en moi ». Elle n'est pas l'océan, mais elle est dans l'océan et l'océan est en elle. Ça, c'est ce que nous pouvons vivre dans l'amour de Dieu. Je ne peux pas en mesurer la grandeur, mais je peux... Il est en moi et je suis en lui. Je le connais, je ne le comprends pas, il est trop grand, mais je le connais, je vis et il vit en moi. Et, ça arrête les tensions. Et bien sûr, je ne suis pas capable de vivre tout le temps comme ça, mais c'est à ça que je dois revenir. C'est pour ça que déjà David disait « Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Et toutes ces idées de « c'est pas un bâtiment, bien sûr. » Mais de se laisser immerger en lui, parce que oui, nous sommes responsables, et oui, il y a des choses à faire, et oui, et puis après Dieu va faire ce qu'il a à faire. Et quand il le fait, c'est pas pénible. C'est pour ça que l'apôtre Jean pouvait dire « Ses commandements ne sont pas pénibles. » Parce que c'est juste ce que lui va faire au travers de cet amour qui agit en nous. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à transférer ces mots, ces concepts, ces idées en réalité dans nos vies. Et puis, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est le travail de ton esprit dans nos cœurs. Celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et qui peut amener une autre compréhension qui va justement au-delà de l'entendement. Alors merci parce qu'on veut s'attendre à toi. On te demande que tu le fasses déjà maintenant dans les moments qui nous restent à partager ce matin. Et puis que ça puisse faire un travail en profondeur.